Parmi les 9 limites planétaires qui viennent d'être présentées, il y en a une en particulier qui concerne le changement climatique. Et en août dernier, on nous alertait dans un nouveau rapport sur l'accélération du changement climatique. Il s'agit du dernier rapport du GIEC et je vais maintenant m'adresser à Dimitri. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le GIEC, s'il te plaît?
Effectivement, donc le GIEC, vous en avez entendu parler, hein, on appelle ça, c'est l'IPCC en anglais. C'est un organe donc scientifique, bon, qui a été créé depuis un certain temps, puisque c'est 1988, qui réunit beaucoup de pays. Hein. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va regrouper, hein, évaluer un très grand nombre d'informations, qui sont scientifiques, techniques, socio-économiques, sur le changement climatique. Alors, il y a un point aussi qui est important, c'est que ce n'est pas un organe qui va lui-même faire les travaux scientifiques. Donc, il va vraiment agréger l'ensemble des informations et bien sûr les évaluer. Il réalise un rapport environ tous les 6 ans, donc c'est vraiment une sorte d'état des lieux, hein, donc, qui a été fait. Le point aussi qui est important, c'est qu'évidemment, il est revu par les experts, c'est pour ça aussi que ça prend un certain temps, mais il est aussi revu par les gouvernements. Ce qui fait que, ben, il y a un certain nombre de passages qui peuvent être édulcorés, hein, par les gouvernements. Après, bien sûr, les éléments qui sont donnés sont évidemment corrects. Autre point, juste pour votre information, c'est qu'il existe un équivalent du GIEC sur la biodiversité. C'est l'IPBES qui fait aussi un certain nombre de rapports. Et d'ailleurs, les deux se sont associés parce que le changement climatique est la troisième raison de la perte ou la chute ou même de l'effondrement de la biodiversité. C'est un facteur qui est très important. Donc, on a effectivement un sixième et dernier rapport, hein, qui date de août 2021, donc qui est plus sur la partie éléments scientifiques. Après, et on va aller bientôt les avoir, il y a 2 autres rapports qui vont bientôt sortir, donc en février et en mars, sur à la fois les impacts, l'adaptation, les vulnérabilités, mais aussi l'atténuation du changement climatique.
Le dernier rapport qui est paru en août dernier, est-ce que tu peux nous en donner les quelques conclusions, quelques éléments principaux à retenir?
Il y a vraiment un message clé, hein, qu'il faut retenir du sixième rapport du GIEC, c'est qu'il y a une influence humaine qui est incontestable sur le réchauffement climatique. Quand on dit influence humaine, c'est à travers ces activités industrielles qui, évidemment, dégagent du CO2 et aussi d'autres émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le graphique que vous voyez donc, avec la souris, hein, dans le graphique donc, qui se trouve à droite, où d'un côté, vous voyez toute la partie qui est en gris, hein, qui correspond à, je dirais, les évolutions naturelles de la température sur Terre, indépendamment ou sans l'activité humaine. Maintenant, on voit ici, dans cette partie en beige, quel est l'impact de l'activité humaine sur la température, et on voit qu'il y a une différence significative entre les deux. Donc, ça montre bien, effectivement, que l'activité humaine a un impact direct et réel sur le réchauffement climatique. Et ça, ça a été confirmé depuis le début, à chaque rapport. Et je dirais même, entre guillemets, c'est même pire, puisque le réchauffement climatique, en fait, a été accéléré, comme d'ailleurs on s'en aperçoit. Évidemment, ça se traduit, hein, vous commencez à vous en apercevoir de plus en plus, hein, à travers des fortes précipitations, une augmentation des canicules, une augmentation des sécheresses. Et ça, c'est une évaluation donc, du GIEC. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que c'est toutes les régions qui sont concernées. Donc, il s'agit bien d'un problème qui est mondial. Et en plus, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a une accélération. Encore une fois, il n'y a pas une semaine, sans encore vous regarder les nouvelles, où il n'y a pas d'inondation, de blizzard ou d'autres choses, avec des impacts directs et indirects. Donc c'est vraiment, effectivement, vraiment l'enjeu qu'on a aujourd'hui de traiter, à la fois pour atténuer et aussi, bien sûr, pour s'adapter. C'est un enjeu, souvent, malheureusement, qu'on oublie. Le réchauffement climatique, si vous avez regardé, il est aujourd'hui de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, donc avant qu'on ait des activités humaines, je dirais, significatives en termes de dégagement de gaz à effet de serre, donc plus 1,1 degré. Eh bien, comment dire, le GIEC estime qu'entre 2027 et 2033, on va être environ à plus 1,5 degré. Donc maintenant, si vous souvenez, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez, que sur la Terre, ce qui détermine la température, c'est l'accumulation ou la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dessus. Et donc, évidemment, si par exemple, on augmente de plus 1,5 degré, eh bien, donc, entre guillemets, il y a une sorte de budget à ne pas dépasser pour ne pas aller au-delà de 1,5 degré. Eh bien, on peut dire que déjà, on a, par rapport à ce budget, hein, c'est comme vos économies à la fin du mois, eh bien, on a déjà consommé 87%. Il ne reste plus que 13% pour qu'on ne dépasse pas les 1,5 degrés. Pour être tout à fait honnête, les 1,5 degrés, on n'y arrivera pas. Hein. Enfin, je veux dire, ce sera au-dessus, hein, c'est quasiment certain. Deuxième point, si on prend un exemple, on prend un budget de 2 degrés, hein, donc avec des impacts qui seront différents, plus importants. Évidemment, là, le budget est un peu plus important, mais évidemment, plus la température augmente, donc plus le budget augmente, plus les conséquences sont importantes.
Entre 1,5 degré et 2 degrés, est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce qui change réellement?
Ben effectivement, on se dit, bah oui, 0,5 degré, c'est pas grand-chose. Alors, comme j'ai dit, on est à 1,1 degré. En fait, ça a des conséquences qui sont majeures. Pour prendre quelques exemples, eh bien, la fréquence des chaleurs extrêmes va être multipliée par 2 à 1,5 degré et multipliée par 4 à 2 degrés. Par exemple, la quantité de forêts qui vont être brûlées dans la Méditerranée aussi augmente fortement. Les canicules, comme en 2003, vont être beaucoup plus nombreuses. Aussi, dans toute l'Europe, sur toute la partie centrale de l'Europe, les personnes qui vont être touchées par des pénuries d'eau, et donc typiquement, ça concerne les personnes qui sont en région, soit au-dessus de la Loire, en région parisienne, vont être touchées par ça, eh bien, on va être touché par des pénuries d'eau. Chose dans laquelle on n'a pas vraiment l'habitude pour l'instant. Tout ce qui concerne aussi les augmentations des pluies très élevées va aussi augmenter, et la durée des sécheresses va aussi augmenter. Donc, on voit que 0,5 degré, un impact fort. Et juste pour rappel, si les États ne font que respecter leur engagement, on arrive à plus de 2,4 degrés. Et s'ils ne la respectent pas, je ne vous parle même pas. Donc, voyez les conséquences que ça va avoir, encore une fois, direct et indirect. Évidemment, l'objectif, c'est de réduire nos émissions. Et bien sûr, il faut le faire à la fois rapidement et fortement. Donc, ça signifie, en fait, derrière, décroître notre utilisation d'énergie et de consommation, parce que évidemment, lorsqu'on produit, évidemment, il faut de l'énergie, et l'énergie, elle est carbonée, hein, et donc ça émet du gaz à effet de serre. Donc, l'objectif au départ de l'Union européenne, il était de réduire de 40% entre 90 et 2030. Il a augmenté son objectif, ou réduit en fonction de la manière dont on regarde, à moins 55% par rapport aux années 90. Ça veut dire en fait qu'il faut réduire à partir de 2022, hein, les émissions de gaz à effet de serre de 7% par an. Et alors, évidemment, on pourrait dire, bah oui, on peut attendre, etc. Mais évidemment, plus on attend, pire c'est. Et donc, si on attend, par exemple, en 2025, donc juste 3 ans, bah là, pour le coup, il va falloir réduire de 12% par an. Alors, vous imaginez même pas si on réduit encore plus là-dessus. Où se trouve la France par rapport à ça? Eh bien, elle est restée sur l'objectif de moins 40%. Elle ne s'est pas alignée sur l'Union européenne. Et si on regarde, par exemple, sur le schéma qui se trouve en dessous, eh bien, on voit bien qu'avec simplement les mesures actuelles, on n'y est pas du tout. Donc, il y a encore énormément d'efforts à faire. Ensuite, il y a les mesures, si on veut aboutir à moins 40%, et ça ne suffit pas encore pour objectif neutralité carbone en 2050. Et en fait, il faudrait réduire de moins 55%. Et un dernier point quand même qu'il faut se rendre compte, encore une fois, c'est facile de dire oui, c'est chouette, oui, on va parvenir à réduire les émissions. Encore faut-il le transformer en acte, le transformer en termes de politique, et aussi l'expliquer pour que ça soit bien sûr socialement acceptable pour l'ensemble des personnes.
Les gouvernements se sont engagés à prendre des mesures. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on intègre dans ces engagements?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en plus, alors c'est un peu la mauvaise nouvelle, pour être honnête, c'est qu'on se fonde sur les émissions qui ont lieu sur le territoire en France. Donc, ça signifie que, bien sûr, il y a des choses qui sont produites en France, mais si vous exportez, donc on va intégrer les exportations sur le territoire, mais ça pose plusieurs problèmes. Déjà, premier problème, c'est que on n'a pas le point de vue d'un consommateur. Donc, quand vous allez acheter un produit qui est fait en Chine, on ne va pas intégrer ces émissions-là dans notre objectif, ou donc la stratégie nationale bas carbone, on ne va pas l'intégrer. De telle sorte que, d'ailleurs, ça a des effets pervers, puisque, entre guillemets, c'est extrêmement simple, en fait, de réduire à ce niveau-là nos émissions de carbone. Il suffit de tout délocaliser et puis d'arrêter d'exporter. Ça a plusieurs soucis, parce que d'un côté, évidemment, les émissions de carbone, ça lui est en Chine, et donc, de toute la manière, c'est toute la Terre qui est concernée. Et puis, en plus, il faut savoir que, quand même, il y a beaucoup plus de centrales à charbon en Chine qu'en France, et il y en a deux, elles ne sont pas tout le temps utilisées, hein, même a priori, elles devraient arrêter d'être utilisées. Hein. Donc, c'est un double impact. Et en plus, bien sûr, les biens qui sont faits en Asie ou ailleurs sont envoyés donc, en France, qui en plus émet du CO2. Et donc, il faut absolument avoir cette vision d'empreinte carbone en intégrant donc les importations, hein, parce que pour le coup, là, ça va aussi inciter pour le coup à relocaliser. Hein. Parce que eh bien, les entreprises vont dire on a intérêt à relocaliser parce que notre empreinte carbone va diminuer, parce que plutôt que de le faire en Chine hein, ou ailleurs, peu importe, hein, il n'y a rien contre les Chinois, au moins on va réduire avec nos émissions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de basculer sur la partie empreinte carbone qui intègre pour le coup les importations. Alors, il y a un dernier point aussi qu'il faut garder en tête, c'est que, comme vous le savez certainement, c'est que les émissions de carbone, quand on émet du carbone, il y a une partie qui est absorbée par les océans et par les forêts. Donc, pour les océans et les forêts, c'est aux alentours, c'est un petit peu moins de 50% qui est absorbé, alors soit par les océans. Donc, les océans, en fait, ils vont absorber, ils vont transformer ça donc en CO2 à l'intérieur, enfin, les océans. Le petit souci qu'il y a par rapport à ça, c'est que ça va acidifier donc les océans, de telle sorte que ça ne va pas être super pour la biodiversité, parce que les phytoplancton vont avoir des petits soucis par rapport à ça. Et en plus, il y a un autre point, c'est que les océans vont être saturés en CO2. Hein, donc, la pompe, entre guillemets, océanique, va être de moins en moins bonne. Donc, c'est-à-dire que le budget carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure, potentiellement, il pourrait être encore bien plus réduit si, évidemment, on n'absorbe pas cela. Terrestre, c'est le même principe. Par exemple, la forêt amazonienne, en fait, elle émet plus de CO2 qu'elle en absorbe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un côté, on fait de la déforestation et de l'autre côté, il y a des incendies. Et quand vous faites ces deux, au final, vous avez un puits de carbone, les forêts, qui est beaucoup moins efficace qu'auparavant. Alors, on en a un peu parlé dans les sessions qu'on a vues auparavant. Il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais il y en a surtout trois principaux. Il y a le méthane, qui est lié à l'élevage, en particulier donc, les vaches. C'est pour ça qu'on dit sur le vent qu'il faut réduire sa consommation de viande. Et aussi donc, le protoxyde d'azote, qui est notamment issu notamment des engrais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il y a aussi les gaz fluorés aussi qui ont un impact un peu moins important. Juste un point, c'est que le méthane, pour la même quantité, a un impact environ 28 fois supérieur. En revanche, il y a beaucoup moins de méthane que de CO2. Et le protoxyde d'azote, c'est environ 265 fois plus d'impact en termes de réchauffement climatique que le CO2. Évidemment, les quantités ne sont pas les mêmes. Alors, un point qui est très intéressant que dit le GIEC, c'est que le méthane, si on réduisait très fortement le méthane, ce sera un levier fort pour réduire le réchauffement climatique parce que le méthane a une durée de vie beaucoup plus faible que le carbone qui reste beaucoup plus longtemps donc dans l'atmosphère. Donc ça, ce sera un vrai levier pour réduire le réchauffement climatique.
Merci Dimitri. Merci beaucoup pour cette présentation. On vient de comprendre que le GIEC, c'est une instance scientifique super importante et reconnue. Et qui indique aux différentes puissances mondiales les efforts qu'il nous reste à faire pour rester sous un seuil de réchauffement global qui nous permette de maintenir des conditions de vie satisfaisantes.